Alors on chante, qu'est-ce qu'on attend? On n'a pas de terre de rechange, on n'a plus le temps de faire semblant. Alors on se lance, on laisse plus faire. On n'aura pas de deuxième chance, pas de plan B, pas d'autre terre.
100.9 Galade.
Et bonsoir à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver ce soir sur Calade pour une nouvelle émission de Alors on change, le rendez-vous mensuel d'Alternatiba consacré au climat et au développement d'alternatives locales.
Calade 100.9.
Le 30 mars dernier était la première journée internationale zéro déchet à l'initiative des Nations Unies. Le secteur des déchets contribue en effet de manière significative au dérèglement climatique, à la perte de biodiversité et à la pollution généralisée. Chaque année, près de 1 milliard de tonnes de nourriture sont perdues ou gaspillées et 14 millions de tonnes de déchets plastiques pénètrent dans les écosystèmes aquatiques. Facteur aggravant, alors que dans les pays à revenus élevés, plus d'un tiers des ordures sont recyclées ou compostées, les pays, eux, à faible revenu, ne recyclent que 4% des déchets et récupèrent d'ailleurs souvent les nôtres. Du côté de la France, nous générons en moyenne 500, 582 kilos de déchets par an par nos propres consommations, soit environ 1,5 kg par jour. C'est énorme. Et si l'on ajoute les déchets de construction, des déchets d'entreprise, la production moyenne annuelle par ménage est de plus de 5 tonnes chaque année. Et s'il est vrai qu'en 10 ans, la production de déchets a presque stagné pour les ménages en France et diminue très doucement pour la construction, moins 9% cette année, pour les entreprises, moins 13%, le recyclage, lui, ne progresse que très très lentement. Pas assez lentement. Nos quantités de tri stagnent. La loi anti-gaspillage et pour une économie circulaire, votée en 2020, a elle pour objectif de réduire les déchets, de favoriser le réemploi, de réduire le gaspillage alimentaire et de développer la valorisation énergétique. Devant l'urgence et l'ampleur du sujet, comment enrayer un phénomène mondial dont l'origine est une surconsommation encouragée par un système productiviste extrême, extrêmement présent notamment à travers la publicité ? Est-ce d'ailleurs possible, sans remettre en cause ce système de surconsommation, de faire des progrès? Quels sont les leviers que nous, particuliers, devons-nous actionner? Et d'ailleurs, est-ce à nous seuls d'en faire? Pour toutes les parties prenantes autour de la table, sont-elles prêtes, elles aussi, à jouer le jeu d'un profond changement? D'ailleurs, toutes les solutions proposées et qui existent sont-elles aujourd'hui suffisantes et adaptées aux enjeux? Des expérimentations montrent que les collectivités locales peuvent impulser des trajectoires d'amélioration importantes, substantielles, en matière de gestion des déchets, en agissant notamment sur la tarification, sur l'organisation du service, sur la sensibilisation et sur le portage politique. Donc, nous sommes très très ravis ce soir d'accueillir dans le studio Jean-Charles Perrin, maire de Vaux-en-Beaujolais et vice-président à l'agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône, de la collecte du traitement et de la valorisation des déchets. Bonsoir.
Bonsoir.
Et si le travail en local est très important, il ne faut pas oublier non plus le rôle structurant de l'État, voire de l'Europe. Et nous en parlerons aussi avec Madame Alice Elfassi, qui est au téléphone avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes responsable des affaires juridiques de l'ONG Zero Waste, l'ONG qui milite activement contre la production des déchets. Et nous allons donc voir tous ensemble, pour débattre avec ce sujet ce soir de la plus grande importance.
Le français s'habitue à tout jeter après usage. Et le jour n'est peut-être pas si loin où le couvert, au même titre que la bouteille, retournera aussitôt au néant.
On vous utilise et on vous jette quand vous êtes totalement usé.
Autrefois, s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre, on s'en allait en laissant la vaisselle.
Cette grève et cet amoncellement de poubelles nous renvoient à notre consommation, à nos 582 kilos par an et par personne.
Chaque minute, l'équivalent de 33 800 bouteilles en plastique sont jetées dans la Méditerranée.
Alors pourquoi tous ces déchets? Pourquoi on en a autant? Pourquoi 200 kilos par seconde? Parce que tout notre système est basé sur l'hyperconsommation.
Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio.
Je pense que la plupart des Français ont l'envie de trier. Par contre, les efforts en faveur de l'économie circulaire sont mis en avant par les marques pour justifier un modèle qui est souvent fondé sur le jetable ou l'usage unique.
Une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau.
Pour l'heure, trier les déchets aide à comprimer la masse salariale de Suez ou de Veolia, maximiser ses profits et les dividendes de ses actionnaires, parce que vous le faites à la place de ses employés.
Une tourniquette pour faire la vinaigrette.
Eh bien, moi, je réitère ma demande au gouvernement. Bon, d'abord d'assurer la sécurité des biens et des personnes, parce qu'on en est là aujourd'hui. Et puis surtout, à la veille de la nouvelle manifestation, de faire enlever toutes les ordures des rues.
Et nous serons heureux.
Qualifier le président de la République d'ordure, ce n'est pas bien petit.
Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine.
Et merci encore à JC pour cette respiration. On débute donc cette émission avec vous, Monsieur Perrin. Vous êtes donc en charge à l'Aglo de la gestion des déchets. Vous avez une délégation là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quelles sont les compétences de l'Aglo qui les a récupérées des communes et du coup, brièvement, nous dire un petit peu sur quoi vous pouvez agir.
En fait, les compétences au niveau de l'agglomération sur le déchet, ce sont surtout la collecte des ordures ménagères, la collecte du tri sélectif, l'organisation des déchetteries. Alors actuellement, une seule déchetterie. Ça, c'est une question sur laquelle on reviendra peut-être un peu plus tard, puisqu'on est un peu à bout de souffle sur la déchetterie existante. Et puis, également, sur toute la partie gestion des déchets dans la globalité, que ce soit au niveau des déchetteries, soit au niveau des collectes. Mais ça, c'est réparti sur deux systèmes, un système en régie, un système en délégation. Mm-hmm. Et le traitement
se fait... Peut-être expliquer ce que c'est la régie et la délégation pour nos auditeurs.
Oui, bien sûr. Effectivement, on a un système en régie qui se trouve sur la partie urbaine, c'est-à-dire les quatre grosses communes, hein, Villefranche, Arnas, Glaizé, Lima. Une régie, ça veut dire que le matériel et le personnel est géré par la communauté d'agglomération. Donc ça, c'est un système qui existe depuis longtemps sur cette agglomération. Et sur les parties rurales, donc vous avez deux anciennes communautés de communes qui, elles, travaillaient jusqu'à maintenant ce qu'on appelle en délégation de services publics, c'est-à-dire avec deux entreprises privées qui, en l'occurrence, sont aujourd'hui éco-déchets. Ce qu'on peut signaler quand même, c'est que 80% des habitants sont sur la partie urbaine et 20% sur la partie rurale. Alors un petit détail à signaler, c'est que Jassan, qui est de l'autre côté de la Saône, donc dans l'Ain, mais qui fait partie de notre communauté d'agglomération, là on a une convention avec le syndicat des déchets de l'autre côté, de Dombes-Saône-Vallée, qui eux font la collecte pour Jassan, puisque c'était plus simple étant donné qu'ils étaient déjà dans une organisation particulière.
D'accord, donc ça c'est sur le volet collecte.
Voilà.
Et ensuite, vous disiez, il y a d'autres compétences.
Pour ce qui est du retraitement, justement, on travaille avec le Citreval. Le Citreval est le syndicat de traitement et de valorisation des déchets qui fonctionne avec 8 EPCI, donc des communautés d'agglomération ou communautés de communes surtout.
D'accord.
Grosso modo, c'est tout le nord du département du Rhône, notre agglomération, la communauté de l'Ouest rhodanien. Beaujolais, Saône, de l'autre côté, Belleville, toutes les communautés de communes le long de la Saône, mais côté 1, et une qui est à cheval sur la Saône-et-Loire, et donc sur le secteur de Tramaille jusqu'à Mâcon. Et on a donc le Citreval gère à cet effet la récupération des déchets et leur valorisation, notamment avec l'usine d'incinération qui existe à Villefranche, où une grosse partie des ordures ménagères sont retraités sur cette unité de valorisation qui, en plus de retraiter les ordures ménagères, approvisionne un réseau de chaleur sur la ville de Villefranche.
On y reviendra sur ce réseau de chaleur qui est en train d'être...
Qui est en train d'évoluer, d'ailleurs.
D'être, voilà, grandement développé. Est-ce que sur la situation des déchets dans le terme de collecte, donc du coup de production. Est-ce que vous avez des données à nous partager sur que c'est quelque chose qui augmente, quelque chose en proportion de la population? Est-ce que par rapport aux moyennes nationales, on se situe comment?
Alors, c'est intéressant, puisque j'entendais tout à l'heure qu'en moyenne nationale, on est à plus de 500 kilos.
582 kilos par personne en moyenne.
Eh bien, bonne Noël, sur l'agglomération, on est à 480 kilos, tout compris. Je peux vous donner le détail,
tout
si
compris,
vous voulez, parce que c'est intéressant.
Oui,
c'est 242 kilos d'ordures ménagères par an, par habitant. Alors ça, c'est une moyenne. D'accord. Ce qui veut dire que sur certains quartiers à forte densité, on est plutôt à plus de 300 kilos. Mm-hmm. Et sur les secteurs ruraux, on est à moins de 200 kilos. On y reviendra plus tard. On a 35 kilos de tri sélectif. Mm-hmm. On a 174 kilos de déchets qui arrivent à la déchetterie. Alors là, tout confondu entre les encombrants, les gravats, j'en passe, c'est les meilleurs. Et pour finir, 29 kilos de verre. Sachant que sur notre secteur, on n'est pas bon au niveau de la récupération des verres. On a des gros progrès à faire. On a des gros progrès à faire sur tout, mm-hmm. mais particulièrement les verres. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, c'est quand même un déchet facile à trier. Les conteneurs à verre existent depuis longtemps. Et malgré tout, on est très bas en moyenne par rapport à tous nos voisins.
D'accord. Est-ce que ce sont sur chez nous, dans cet agglo-là, sur les chiffres que vous nous donnez, est-ce que ce sont des indicateurs en diminution dans le sens où ça va en baisse ou pas?
Je ne voulais pas signaler, effectivement, sur les ordures ménagères, ça fait 3 ou 4 ans où on a l'air de se maintenir, on n'augmente pas.
D'accord.
Vous voyez, on est autour de, là je vous cite
les chiffres, 2021,
242, mm-hmm. on oscille, c'est une moyenne à 240 hein, à peu près, sachant qu'on va essayer de faire baisser ce chiffre, bien entendu.
Madame Elfassi, vous êtes donc responsable juridique au niveau de Zero Waste, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que, par rapport à ces données et à ces chiffres que M. Perrin vient de nous partager, quelle est la situation, quel est le constat que votre association mène sur la France?
Oui, bah merci beaucoup à vous pour l'invitation. Effectivement, je vois que l'agglo de Villefranche-sur-Saône est plutôt meilleur élève du coup qu'au niveau national. Au niveau national, effectivement, on note en réalité du coup une augmentation de la production de déchets. Et notamment, on avait parié en fait dans les années 2010 sur plutôt une baisse de la production de déchets et en particulier de la production d'ordures ménagères. Et finalement, on observe plutôt une hausse. Et il y a eu beaucoup de paris qui ont été faits aussi au moment de la crise du Covid sur peut-être un monde d'après, notamment sur la production de déchets. Et finalement, on s'aperçoit qu'avec cette crise, il y a au contraire plutôt une augmentation des déchets, aussi parce que les pratiques de livraison à emporter, par exemple, de livraison et de vente à emporter, se sont énormément développées, démocratisées et ont explosé, donc avec beaucoup de déchets qui y sont associés. Donc la situation est assez préoccupante, puisqu'il y a certains territoires qui se retrouvent vraiment saturés en termes de traitement en fait de ces déchets. On a beaucoup parlé de la Corse aussi pendant le Covid, qui était obligée mm-hmm. d'envoyer ses déchets sur le continent, mais il y a aussi d'autres territoires où les décharges arrivent à saturation, les déchetteries également, alors que les déchetteries sont un endroit vraiment très important à avoir pour tout ce qui est encombrant, tout ce qui est aussi déchets de construction, et il y a une obligation en plus maintenant d'avoir des zones de réemploi aussi dans ces déchetteries-là. Donc il y a un vrai sujet sur le fait de manquer d'exutoires pour nos déchets, et donc on essaye de ramener en priorité le sujet de la prévention, puisqu'on parle beaucoup de gestion et de traitement des déchets, mais trop peu de prévention, alors que c'est l'échelon prioritaire finalement sur lequel agir.
Et justement, ce volet prévention, Monsieur Perrin, c'est quelque chose que font aussi les ambassadeurs du tri ici. Oui. Moi, j'ai eu l'occasion plusieurs fois de les avoir par mail ou par téléphone, et je salue le service. Aujourd'hui, les services, donc vous avez parlé d'un service en délégation et d'un service en régie publique. Combien de personnes à l'agglomération travaillent sur nos déchets?
Voilà. Alors un petit détail que j'aurais effectivement dans le sens de ce que vient de dire Madame Elfassi, le meilleur déchet c'est toujours celui qu'on ne produit pas. Effectivement, je suis tout à fait sur la même longueur d'onde. Alors au niveau des services de la communauté d'agglomération, effectivement, pour la partie collecte, on a 28 personnes qui travaillent à la collecte. Et là, j'en profite puisque je suis à la radio pour saluer tous les gens qui font ce métier. Vous savez, c'est des gens qui commencent à 5h du matin. Je vous laisse laisserai deviner ce que peut être le travail de report. Hein, moi, je suis viticulteur, je connais le travail d'extérieur, mais on ne part pas à 5h du matin, hormis l'été. Et je peux vous dire que ces gens-là partent tous les temps, l'hiver, par le froid, la pluie, ils sont derrière le camion. Et je voudrais passer un petit message aux usagers qui sont parfois derrière le camion, qui se permettent d'insulter les reports, de les engueuler. Hein. Je ne voudrais pas... faire dans le détail, je trouve que franchement il y a des conduites inacceptables parce que ces gens-là font un travail que personne ne veut faire. Ils ont fait le travail sans arrêt, y compris pendant le Covid. Et
ils vont même le faire jusqu'à 64 ans maintenant.
Ils vont même le faire jusqu'à 64 ans, effectivement. Alors, j'espère que pour beaucoup, ils seront en carrière longue et qu'ils arrêteront avant.
J'espère aussi.
Je peux vous dire que c'est quand même une question qu'on peut se poser sur l'avenir. Est-ce que ce type de métier est quelque chose à faire perdurer? Est-ce qu'on n'a pas intérêt à aller chercher d'autres formules de collecte, y compris parfois de demander à l'usager de se forcer un petit peu, parce qu'on a donné quand même de très mauvaises habitudes à l'usager en France. On l'a habitué à consommer, c'est vrai, hein, ça vient pas de lui, mais on l'a habitué à consommer et à faire des déchets sans se poser de questions. Et aujourd'hui, il va falloir changer de fusil d'épaule. Alors voilà, ça c'était pour le petit détail par rapport à tous ces gens qui travaillent auprès de nous et dont je vous assure, on a besoin de les soutenir. Et ça, c'est pour la partie vraiment...
Collecte.
Et puis à côté de ça, on a un service qui se penche sur effectivement l'organisation, la réflexion, donc des ambassadeurs du tri. Alors, on commence à étoffer un peu notre service, parce que notre service était plutôt mal doté, puisqu'on avait, depuis 2014, où l'agglomération s'était agrandie, on n'avait pas étoffé le nombre d'ambassadeurs du tri. Aujourd'hui, on en est à 3, on en a embauché une personne, et on en a encore une autre à embaucher, donc on va arriver à 4 ambassadeurs du tri. Un responsable de service, une technicienne qu'on a mis un an pour recruter après le départ de l'autre. C'est aussi, on a... beaucoup de difficultés à recruter des personnes. Et puis, on prévoit encore une autre personne pour le recrutement, effectivement, pour mettre en place nos orientations, puisque dans les années à venir, il va falloir qu'on prenne un certain nombre d'orientations, notamment, on en parlera plus tard, sur les biodéchets.
Oui, on va en parler un peu plus tard. Pour revenir à ce que disait Madame Elfassi sur la prévention, les ambassadeurs de tri ont une fonction de prévention auprès du grand public.
Oui, alors effectivement, aujourd'hui on travaille. Alors le fait que ce soit étoffé, ça y est, on commence à prendre un peu d'intervention, d'être plus sur le terrain. Donc nos ambassadeurs, ambassadrices, puisqu'il y a les deux, interviennent auprès des écoles et écoles. Tout confondu, hein, jusqu'au lycée, jusqu'au collège. Ils font un travail aussi beaucoup auprès du compostage, auprès des usagers, des habitants, notamment aussi ça peut être sur des marchés, ça peut être sur diverses fêtes de la nature, etc. Et là, effectivement, surtout, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup, c'est la communication et la pédagogie, puisque, en fait, ces 30 glorieuses, hein, qu'on a terminées depuis longtemps, ont amené à ce qu'on se pose jamais de questions sur le déchet. Et la facilité de poser le sac en bas de sa porte et que les gens viennent ramasser, ça incite pas à se poser des questions. Et donc, je crois fortement, et on le voit d'ailleurs, hein, par ces actions-là, on sait qu'on peut aussi faire des actions ensuite sur l'alimentation, dans les cantines, sur... l'attention aux aliments, à savoir ce qu'on va consommer, ne pas gaspiller. Il y a tout un travail d'avenir à faire qui n'est plus dans les habitudes, hélas. Moi, je suis issu d'un secteur rural où on a appris à... mes parents étaient de petits paysans et on a appris à faire attention aux aliments, respecter les aliments. Et aujourd'hui, je trouve qu'on est bien loin de tout ça.
Et Madame Elfassi, vous parliez justement d'importance sur la prévention. Là, on vient de parler de pédagogie, d'anti-gaspi. Ça touche plutôt là l'usager, le consommateur. Il y a aussi tout un volet qui est important, qui est la production des déchets par les entreprises et par la construction, par ces deux secteurs importants. Quelles sont les actions que Zero Waste ou les directives ou les politiques que Zero Waste prône dans ces sujets ?
Oui, effectivement, quand on parle de production de déchets et de réduction des déchets, on a très souvent tendance à mettre le doigt sur le consommateur, la consommatrice, alors qu'il y a énormément de leviers en fait qui ne dépendent pas que des individus. On a souvent le discours de dire notamment que si en France on est en retard sur les problématiques de tri, de collecte séparée des plastiques ou ce genre de choses, c'est parce que le citoyen trie mal, le citoyen ne veut pas trier, etc. Et nous, avec notre association Zero Waste France, on essaye justement de casser un petit peu ce discours-là, de montrer que les gens sont globalement prêts à faire des efforts pour une prévention des déchets, à condition qu'on leur présente des alternatives qui soient accessibles et à condition qu'on les sensibilise aussi. On en a même écrit un livre l'année dernière pour justement casser un petit peu la vision uniquement individuelle du zéro déchet, parce que pour nous c'est vraiment un ensemble de politiques publiques, d'actions des entreprises contraintes par les politiques publiques et de sensibilisation citoyenne et d'action citoyenne qui va permettre de changer un petit peu de modèle en matière de production de déchets.
Et donc, justement, exemple, quelles actions pour les entreprises, voilà?
Ouais, nous par exemple, ce qu'on prône pour les entreprises, bah, typiquement, on a mis en demeure 9 entreprises de l'agroalimentaire en septembre 2022 sur le non-respect de leur devoir de vigilance sur leur production plastique. Donc on leur demande une trajectoire de déplastification sur les années à venir, parce que finalement on a inscrit dans une loi en France l'objectif fin des emballages plastiques à usage unique en 2040, mais derrière on voit que les entreprises n'ont aucune trajectoire concrète et chiffrée qui les mène vers cet objectif, notamment dans le secteur alimentaire qui est extrêmement dépendant des emballages plastiques à usage unique. Et finalement on voit que bah, par exemple, il y a beaucoup d'études qui montrent que les individus sont demandeurs d'un retour à la consigne pour réemploi des emballages, seraient prêts à ramener leurs contenants en verre pour qu'ils soient réutilisés, lavés, réutilisés. Et en fait, c'est des alternatives qui ne dépendent pas des individus, qui ne peuvent pas être remises en place à grande échelle sur les seules épaules des citoyens volontaires. Si on veut retourner à la consigne et arrêter de jeter nos emballages en verre au bout d'une seule utilisation, si on veut se passer de plastique à usage unique, il faut du soutien des politiques publiques pour que les entreprises s'y mettent et développent les emballages consignés. Il faut des investissements publics aussi dans des infrastructures de lavage à grande échelle qui soient suffisamment maillées sur l'ensemble du territoire. C'est pas nous seuls citoyens, citoyennes individuellement qui allons pouvoir nous passer des emballages plastiques à usage unique qui sont partout dans nos rayons au profit d'emballages consignés s'il n'y a pas derrière les bons investissements publics et la contrainte qui pèse sur les entreprises. Parce que demain, des entreprises de l'agroalimentaire n'auront pas d'intérêt à supprimer en fait leurs emballages plastiques à usage unique si elles n'y sont pas contraintes et si économiquement elles n'ont pas intérêt à le faire aussi, quoi.
Et sur l'agglo, est-ce qu'il y a des stratégies qui sont mises en place ou des dialogues, déjà avant même des stratégies, peut-être des dialogues et des actions de prévention ou d'alerte ou d'information auprès des entreprises concernées ?
Non.
On n'a pas d'industrie agroalimentaire sur le territoire, à ma connaissance. Par contre, on a des bâtisseurs. La construction représente un gros...
Alors actuellement, effectivement, il va se mettre des réglementations au niveau du bâtiment, hein, mm-hmm. pour les réglementations. Mais je reviens sur ce qui vient d'être dit. Là, effectivement, c'est sûr qu'il ne faut pas accuser toujours l'usager. On se rend compte qu'aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises, utilisent des emballages en veux-tu, en voilà. On a aujourd'hui tout un phénomène d'achat par correspondance qui multiplie encore les cartons, par exemple.
Oui, les cartons.
Mais même sur les produits alimentaires, de l'industrie agroalimentaire, où vous avez des fois deux emballages. Effectivement, il y a un travail à faire. Et c'est vrai que là-dessus, les collectivités de notre type, on n'est pas équipés pour faire ce travail-là. Effectivement, c'est des mesures d'ordre national. Et effectivement, j'ai eu l'occasion avec le Citraven l'année dernière d'aller visiter une entreprise de recyclage de plastique. Même à ce niveau-là, il y aura un travail à faire important, puisque chaque entreprise va avoir un peu son plastique à elle. Et ça pose ensuite énormément de problèmes pour le recyclage. Il y aurait besoin d'avoir une certaine unité pour travailler dans de bonnes conditions, parce que avec toutes ces particularités, bien le recyclage arrive à coûter cher, et c'est grandement dommage, puisque si tout le monde, si effectivement il y avait un peu de prise en compte de ces entreprises à pignon international, national ou international, effectivement, je crois qu'on pourrait avoir des avancées plus flagrantes et plus importantes.
J'ai vu des arbres de plastique dans des déserts inhabités, mélangés à l'organique sur le rebord des voies ferrées, envahissant tout un village, drapeaux aux mille couleurs. La caissière vous noie au passage, prenez-en celle de bon cœur. De bon cœur. Quand c'est l'air du plastique qui soudain s'en va en fumée, la mélodie la plus toxique que l'homme aurait pu inventer. Cendres noires dans le ciel retrouveront leur paysage, la musique est partout la même, cette terre est juste de passage pour flatter votre égo de passage. Regardez l'air du plastique se mélanger à l'harmonie, elle est sublime cette musique, nos enfants la danseront aussi. S'envole l'air du plastique et s'oublie cette mélodie. Elle est superbe,
elle est cynique
et tellement plus économique.
On le connaît, l'air du plastique, c'est la rengaine du quotidien, celui qu'on mâche, qu'on mastique, celui qui vous scie dans les mains. Des milliards de sacs lâchés comme des ballons dans le vent, ça vous enterre des paniers, c'est là au moins pour 100 ans.
100 ans, 100 ans, 100 ans,
100 ans. Un siècle d'air de plastique, ça vous donne envie de chanter la musique technologique d'un plasticien de l'humanité, la mélodie un peu gênante d'un baobab défiguré, drôle de feuilles sur ses branches que la folie du vent fait claquer, claquer. Regardez l'air du plastique se mélanger à l'harmonie,
elle est sublime cette musique, nos enfants la danseront aussi.
S'envole l'air du plastique et s'oublie cette mélodie.
Elle est superbe,
elle est cynique
et tellement plus économique.
Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Quelle fleur satanique cette terre a vu enfanter. Quand de la terre le plastique devient malgré elle son engrais, main de l'homme sur le monde redessine les paysages, la musique est partout immonde, cette terre est juste de passage pour flatter votre égo de passage.
Et c'était l'ère du plastique de Trio, et nous sommes donc toujours sur Radio Calade dans l'émission d'Alternativa Alors on change, consacrée ce soir à la gestion des déchets. Et nous poursuivons l'émission avec Alice Elfassi, qui est responsable des affaires juridiques à Zero Waste, cette ONG qui milite depuis la fin des années 90 à la réduction de la production des déchets et à une meilleure gestion des ressources. Et avec Monsieur Perrin, maire de Vaud et vice-président sur la question des déchets. Je voulais qu'on poursuive la discussion à propos de justement ce qu'on pourrait un peu comprendre ou entendre comme une injonction contradictoire de limiter nos déchets et d'augmenter le réseau de chauffage qui fonctionne avec l'incinérateur ici. Comment on s'en sort de cette posture un peu schizophrénique, Monsieur Perrin ?
Oui, effectivement. Mais je vais déjà quand même vous dire une chose. c'est qu'on se rend compte que dans les ordures ménagères, vous savez, il y a beaucoup de biodéchets. Mm-hmm. Et on réalise qu'on est en train de brûler un tiers d'eau chaque fois, quoi. Mm-hmm. Grosso modo, il y a un tiers de biodéchets dans les ordures ménagères. Et brûler de l'eau, c'est quand même pas très heureux par les temps qui courent. Ça, c'est la première chose. Effectivement, comment on va s'en sortir? Vous savez que pour compléter quand même le réseau de chaleur est complété par des déchets de bois. Il y a une chaufferie bois juste à côté. Et du bois qui est récupéré, des bois de l'industrie, des divers et variés, qui n'ont
donc
pas...
Donc là, on est dans le circuit de recyclage de l'entreprise.
Qui sont récupérés dans les déchetteries. Par D'accord. exemple, on a une récupération sur Arnas. Alors après, bien sûr, tous les bois ne sont pas acceptés. Il ne faut pas qu'il y ait de produits divers et variés sur ces bois-là, bien entendu, parce que ça pourrait dégager des fumées toxiques. Mais tous les bois prêts à être brûlés, d'anciennes palettes, des différents bois qu'on peut retraiter. Et ça vient en complément, effectivement, du tonnage
d'ordures qu'on cherche à diminuer quand même.
Voilà. Malgré tout, on est sur un secteur où nous, les habitants sont en augmentation. Donc, même si on a une baisse quand même d'ordures ménagères, on maintient encore un volume relativement important.
D'accord. Qui fait que le développement du réseau de chaleur par cet incinérateur fait sens.
Tout à fait. Okay. Vous voyez, par exemple, pour notre agglomération, c'est quand même 16 000 tonnes de déchets d'ordures ménagères qui sont collectées par an. Quoi. C'est quand même pas une masse à faire. Et imaginez qu'on puisse sortir le tiers de biodéchets, vous voyez.
Et justement, il y a cette nouvelle loi qui arrive là et qui va nous, en 2000, si je ne me trompe pas, et peut-être... Alice Elfassi, vous pourrez nous éclairer là-dessus. Il y a cette nouvelle loi en 2024 qui va entrer 1er janvier pour trier les biodéchets, pour la récupération des biodéchets. Est-ce que à l'agglo, on a un test en ce moment qui est très positif, je crois?
Oui. Plutôt, bien sûr. On fait un test, vous savez, sur le secteur d'une partie de Belleroche. Pour ceux qui connaissent un peu, autour de la Maison Vermorel jusqu'à l'avenue Berlioz, qui est sur Lima, un secteur d'à peu près 4500 habitants, sur des secteurs relativement forte densité d'habitants. Donc l'expérimentation est du 1er janvier au 31 décembre. Actuellement, on est à fin mars, on avait collecté 20 tonnes.
Et moi, j'ai entendu dire qu'il vous aviez rajouté des points de collecte.
Effectivement,
parce que c'était
on a rajouté
plein.
Des points de collecte. Alors, malgré tout, ne crions pas victoire trop D'accord. vite. On en est à 1,5 kg par habitant sur 3 mois, vous voyez, sur 4500. Ça veut dire qu'il y en a qui mettent beaucoup, mais il y en a qui mettent pas grand-chose.
Est-ce que vous serez prêt pour cette obligation légale en 2024?
On va essayer. On ne sera pas prêt partout, c'est bien évident. Mais on a différentes pistes. On est en train de... Donc ça, c'est une piste qui est testée en lien avec le site Réval, aidée par l'ADEME. C'est une piste qui nous intéresse pour les secteurs à forte densité d'habitants, puisqu'il est compliqué d'y faire autre chose. Malgré tout, on ne va pas non plus nier un certain nombre de composteurs partagés qui existent déjà sur la ville. Et on en développe d'autres, d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui sont très parties prenantes, qui sont, je dirais, militants. Et je les salue au passage, parce que franchement, c'est un bel effort qu'ils font. Et puis, non seulement c'est un bel effort, mais c'est un bel exemple. Tous ces gens qui font du compostage partagé, alors là, on les laissera pas tomber. Ça, c'est une première piste. Et sur les zones rurales, on veut plutôt développer le compostage individuel. Et aussi partagé dans les centres-bourgs, effectivement, parce que tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir un petit terrain. Alors en même temps, il faut aussi expliquer aux gens que le déchet, c'est une matière première et c'est pas quelque chose qu'on va jeter. C'est ce que c'est très important entre les biodéchets et le gazon. On peut faire plein de bonnes choses avec.
Madame Elfassi, au niveau national, cette loi, elle a constitué un progrès. Il y a aussi effectivement cette contradiction là qu'on vit ici sur Villefranche. Elle existe aussi au niveau national. Et est-ce que comment on se sort un peu sur, enfin comment vous sortez-vous dans le plaidoyer sur ces méthodes un petit peu à la mode d'incinération, méthanisation, mais qui effectivement peuvent être peut-être des remèdes faciles à la continuation d'une surproduction et du coup à oublier un peu toutes les mesures de prévention.
Oui, vous l'avez effectivement très bien dit, hein, que c'est très contradictoire en fait, parce qu'on on se dote d'installations de traitement des déchets qui sont souvent fortement surdimensionnées et qui du coup sont très peu flexibles, c'est-à-dire qu'un incinérateur, une fois qu'il a été dimensionné d'une certaine façon et construit comme tel, il est très compliqué en fait de réduire l'apport de déchets qu'on va lui donner, parce que ça va dysfonctionner en fait s'il n'y a pas assez de déchets pour le remplir. Et ensuite, si on veut réduire la production de déchets sur le territoire, à terme, l'objectif, c'est par exemple de fermer un des fours de l'incinérateur, comme ça a été fait à Besançon, typiquement, qui a mené une politique de prévention des déchets efficace, qui a permis de réduire les ordures ménagères, et donc ils ont fini par fermer un four de l'incinérateur. Mais tout ça, ça prend du temps, et il peut y avoir des périodes de transition qui sont assez compliquées, parce qu'on ne va pas fermer tous les incinérateurs demain, mais du coup, si on continue une politique de toute incinération et avec des messages très valorisants aussi pour cette technologie-là, hein, le message de dire c'est ça qui va, comme vous l'avez dit, hein, chauffer les villes, etc., ça n'incite pas du tout à revoir à la baisse les capacités de ce type d'installation, et ça ne nous fait pas avancer sur des leviers majeurs pour réduire les ordures ménagères. Comme le disait M. Perrin, les biodéchets, c'est effectivement un des leviers majeurs pour réduire notre sac de poubelle grise, dans la mesure où ça en constitue un tiers, et dans la mesure où, là, on est tous d'accord, hein, même avec les industriels de l'incinération, pour dire que brûler des déchets composés d'eau, c'est pas très efficace, et pour le coup, ça ne sert pas du tout la valorisation énergétique qu'on nous vend tant comme avantage de l'incinération, parce que, en fait, ces déchets-là, ils ont un pouvoir calorifique qui est vraiment très très mauvais, hein. Donc c'est pas du tout ces déchets-là finalement qui permettent à l'incinération d'avoir un potentiel de valorisation énergétique et de production d'électricité. Et c'est un petit peu aussi, voilà, c'est cette valorisation, sans jeu de mots, de l'incinération comme super technologie d'économie circulaire qui aussi vient freiner les politiques de prévention. Là, les biodéchets, on a une loi, heureusement, de notre côté pour la fin d'année, mais malheureusement, cette loi-là, elle est extrêmement vague. On essaye de batailler un petit peu pour avoir un décret d'application qui précise qu'est-ce que ça veut dire finalement que mettre en place un tri à la source des déchets organiques, parce qu'en l'état, en fait, la loi dit simplement que les collectivités territoriales, d'ici le 31 décembre 2023, doivent mettre en place ce tri à la source, mais en fait, il n'y a pas plus de détails, et donc on peut imaginer des collectivités, enfin imaginer, on peut même constater des collectivités qui vont se satisfaire, par exemple, de la mise en place de composteurs individuels en disant, bah voilà, on met à disposition des gens des lombricomposteurs en ville et ou des composteurs de jardin en milieu rural, et voilà, ça suffit. Et donc, encore une fois, c'est rebalancer finalement la responsabilité de ce tri sur les citoyens
mais
seuls.
Mais alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire,
en sachant qu'on
qu'est-ce
sait très
que
bien que ça ne suffira pas, quoi.
Et du coup, quelles seraient les mesures plus vertueuses?
Alors, sur le tri des biodéchets, il y a vraiment une complémentarité des solutions dont Monsieur Perrin a bien parlé. Et bon, si tous les élus pouvaient avoir conscience autant de ces enjeux, ça irait déjà un petit peu mieux, parce qu'on est quand même face à des collectivités qui parfois ne sont pas du tout à ce stade de la compréhension du problème et d'identification des solutions. Mais effectivement, on va pas pouvoir se contenter du compostage individuel, parce qu'il y a des personnes très motivées, très militantes, mais on n'embarquera jamais tout le monde. Et l'objectif, là, c'est vraiment de maximiser le gisement de biodéchets qu'on capte, puisque un tiers de la poubelle grise, c'est vraiment énorme. Et il est là, le potentiel. Il n'est pas uniquement sur... voilà, on a distribué quelques composteurs individuels et il y a quelques kilos de biodéchets sur l'agglo qui sont captés. L'objectif, c'est vraiment de tous les capter. Et là-dessus, il y a une vraie complémentarité entre mettre en place une collecte en porte-à-porte ou une collecte en point d'apport volontaire qui est vraiment organisé par la collectivité, et compter sur le compostage de proximité avec des composteurs collectifs en pied d'immeuble dans les quartiers, etc., et des composteurs individuels pour les personnes qui en ont les moyens, et notamment en milieu rural, les composteurs de jardin, ça peut très bien marcher, sous réserve aussi d'une communication, d'une sensibilisation. Et donc, même pour le compostage individuel, il ne faut pas que la collectivité s'en débarrasse et lâche complètement le truc, parce qu'on le voit aussi parfois, les composteurs de quartier ou en pied d'immeuble qui sont gérés par des riverains motivés, par des assos de quartier motivés.
Ce qui est
en fait,
chez
si
nous,
le riverain déménage ou si l'asso se dissout pour une raison X ou Y, le composteur est abandonné. Et ça, ce n'est pas normal. Pour nous, il faut vraiment qu'il y ait une professionnalisation en fait, de ce compostage de proximité et notamment une implication de la collectivité pour faire perdurer ces solutions-là. Parce que si on compte que sur des gens motivés, ça ne se pérennise pas suffisamment pour répondre à l'objectif. Quoi.
Et du coup, je vous vois asquisser, M. Perrin.
Tout à fait. Je crois que Mme Alfassi a bien fait le tour de la question. Alors, on a différents points, effectivement, là-dessus. Alors, il faut savoir que la production de biodéchets, ce n'est pas une mauvaise chose. Ça veut dire que les gens cuisinent des légumes, consomment des fruits. Donc, de ce côté-là, on peut plutôt se réjouir. C'est mieux que des emballages d'agroalimentaire où on achète du tout prêt. Malgré tout, il va falloir effectivement les traiter. Alors, nous, on a la chance d'avoir une ambassadrice du tri qui est maître composteur, donc qui fait beaucoup d'intervention là-dessus. Effectivement,
est-ce qu'elle a vocation à être appuyée? Parce qu'une pour 70 000 personnes, ça ne fait pas beaucoup.
Tout à l'heure, je disais qu'effectivement, il va falloir étoffer notre service. Voilà. C'est loin d'être fini. Mm-hmm. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Effectivement, on ne sera pas prête partout au 1er janvier 2024, mm-hmm. puisque je crois que nous, on a eu la mise en route de l'agglo qui a pris du temps au dernier mandat. Il n'y a pas de choses qui ont été prévues. Et on a commencé.
Vous récupérez avec
moi,
un retard.
Je suis là depuis
retard.
2020. Mmh. Bon, on a démarré pendant un an, on n'a rien fait à cause du Covid, pratiquement. Ouais. Sinon, gérer l'essentiel. Alors, effectivement, sur les composteurs partagés, il faut des gens. Je le disais tout à l'heure, un responsable militant, c'est pas rien. Alors, sur les communes rurales, ça se passe plus simplement, parce que en ville, on est obligé, c'est cadenassé, parce qu'on a peur des apports extérieur qui foutra en l'air tout le bon travail. On en a installé quelques-uns dans des centres-bourgs, ça se passe plus simplement. Là, de ce côté-là, on est un peu rassuré. On prévoit effectivement certainement de faire l'acquisition de composteurs pour les distribuer aux usagers, mm-hmm. mais avec effectivement une explication. Moi, j'ai un mauvais souvenir sur notre ancienne communauté de communes où, dans les années 2000, il avait été distribué des composteurs déjà en plastique, donc c'était pas très heureux, qui ont pourri dans les jardins avec des miettes de partout. Et on n'a jamais expliqué aux gens comment il fallait s'y prendre. Alors, si on ne sait pas s'y prendre, effectivement, ça fait un tas de biodéchets
sur
qui
ne
sent
de...
pas bon et qui ne fait pas du bon compost.
Sur la communauté de communes, au nord de chez nous, à Belleville, il y a depuis longtemps une politique de vente à prix coûtant.
Oui, oui.
Chez nous, c'est prévu des choses comme ça ?
On vient de lancer un marché, là, justement, pour trouver une entreprise de fabricant de composteurs du lait en vue de.
En vue de pouvoir
de les distribuer. Voilà.
Bon, on espère, on touche du bois pour que ça arrive rapidement.
C'est un peu l'objectif. Effectivement, et puis, je vous disais tout à l'heure, on réfléchit aussi, nous, peut-être, à une possibilité de collecte sur les quartiers très denses, puisqu'on se rend compte qu'il est... Et puis on sait que tout le monde n'ira pas vers les composteurs non plus. On se rend compte qu'il y a une certaine population qui a du mal à se poser aujourd'hui des questions sur son mode d'alimentation, sa production de déchets, etc. Alors on ne désespère pas, hein. Je disais tout à l'heure, moi je crois à la pédagogie, je crois à la communication et à la vertu de l'exemple aussi. Donc, vous savez, ça fait... très nombreuses années, on ne s'est pas posé de questions sur nos déchets. Donc, je pense que pour en poser à tout le monde, y compris aux industriels, il va falloir du temps.
Mmh. Mais il faut du temps et je pense qu'il faut de l'argent. Est-ce que c'est un budget qui est aujourd'hui dans les communautés, Madame Alfassi, est-ce que c'est un budget que les communautés ou que les agglos ou
c'est
les mairies...
C'est des budgets qui sont en augmentation.
Qui sont en augmentation généralement,
oui. Ah ben,
Chez nous en tout cas. Et nationalement, c'est le cas aussi.
Oui, c'est des budgets qui sont en augmentation et il y a aussi des accompagnements dédiés qui sont prévus, par exemple sur le tri des biodéchets, je crois que M. Perrin l'évoquait tout à l'heure, mais il y a des accompagnements de l'ADEME qui sont dédiés dans le cadre des fonds économie circulaire, des plans de relance successifs, il y a eu de l'accompagnement des collectivités, donc avec de l'argent au niveau de l'État en fait, investi pour accompagner les collectivités, parce que l'idée c'est pas Si l'idée, c'est pas de tout remettre sur la faute des citoyens, c'est pas non plus de tout remettre sur la faute des collectivités. Et il y en a aussi qui sont volontaires, mais qui, justement, manquent d'accompagnement, manquent de budget. Il y a aussi un rôle de la région, parfois voilà, mettre en lien les collectivités pour que, qu'elles échangent des expériences entre elles, pour certains financements aussi de, d'acteurs locaux, etc. Donc y a une responsabilité partagée, on va dire. Après, on note effectivement que les budgets en faveur de la prévention augmentent, qu'il y a de plus en plus de salariés aussi dédiés au sein des collectivités, des chargés de prévention des déchets, des ambassadeurs du tri, des personnes chargées de la sensibilisation, etc. Donc, c'est une très bonne chose. Mais en l'état, ça reste assez insuffisant pour déployer toutes ces politiques-là à grande échelle, quoi.
Une dernière question, il nous reste peu de temps, mais il y a un point que j'aurais bien voulu aborder avec vous deux, c'était la question de de l'incitation financière. Comment aujourd'hui la collectivité se positionne? Je sais que dans certaines communautés de communes, il y a vers chez nous, dans l'autre côté, dans l'Ain, ça existe, ça n'existe pas à Belleville.
Où
on est sur une tarification qui incite via la taxe des ordures ménagères, je suppose, l'usager à moins produire. Et est-ce que ça fonctionne aussi pour les entreprises? Parce qu'on parlait tout à l'heure de ne pas viser que l'usager particulier, mais est-ce que les entreprises ont aussi, elles, des incitations à ne pas produire de déchets?
Alors ça, je ne peux pas vous répondre. Je ne pense pas que les entreprises aient des obligations à moins produire de déchets. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, moi je connais un petit peu, parce que sur les communes, on a parfois des chantiers, et aujourd'hui, ils sont obligés de faire attention, effectivement, à leurs déchets, de les trier et de les récupérer.
Ça, c'est
déjà une bonne chose. En construction, alors, c'est encore pas gagné, hein, puisqu'il y a vraiment des mauvaises habitudes, mais on sent que ça part dans le bon sens.
À Lille, ça existe au niveau
national? Pour la tarification incitative, effectivement, on a abordé la question, on n'a pas retenu dans un premier temps. Parce qu'on se rend compte que, j'en parlais tout à l'heure, on a des quartiers à forte densité où on a une partie de la population qui a effectivement du mal avec le positionnement sur les déchets. Et la tarification incitative est compliquée parfois dans ces cas-là. Mais c'est vrai que sur des secteurs ruraux, notamment on a un secteur de l'autre côté dans l'Ain, là, où effectivement les gens sont à 140 kg de déchets par an, et nous on est à 240 de moyenne. Mmh. Hein, puisque chaque fois que vous videz le bac, vous payez, quoi. Donc, effectivement, alors après, voilà.
À réfléchir. Madame Elfassi, vous vouliez rajouter quelque chose sur ce sujet?
Oui, bah effectivement, au niveau national, il y a quand même des obligations, hein, pour les entreprises à travers la responsabilité élargie des producteurs, donc sur plusieurs catégories de produits, notamment les produits de construction et du bâtiment, comme l'évoquait Monsieur Perrin, mais aussi ça existe sur les emballages, sur les équipements électriques et électroniques, le textile. C'est des filières organisées au niveau national qui obligent toutes les entreprises qui mettent en marché ces types de produits à payer une contribution financière qui va servir à collecter en fait en fin de vie ces produits-là, à les recycler, mais aussi qui doivent servir normalement à prévenir, à assurer du réemploi, de la réparation de ce type de produits, avec des objectifs qui vont de plus en plus loin, qui sont de plus en plus ambitieux, même si c'est encore très insuffisant et on n'est pas encore sur de la remise en question du nombre de mises en marché, par exemple, là où nous, on voudrait vraiment mettre le holà à cette surproduction, notamment dans certaines filières comme les équipements électriques, électroniques ou le textile, où il y a un vrai sujet à ce niveau-là. En tout cas, oui, il y a des incitations financières possibles pour les entreprises. Et sur le sujet de la tarification incitative, j'entends tout à fait les freins de certaines collectivités à la mettre en place, parce que ça peut être perçu aussi comme une mesure très antisociale, notamment pour des foyers en habitat vertical dans les zones urbaines denses qui ont parfois... des difficultés à réduire leurs déchets, qui peuvent avoir plusieurs enfants avec les couches jetables qui sont un gisement aussi difficile à évacuer de la poubelle grise, ce genre de choses. Mais pour ça, nous, au niveau national, on essaye de pousser dans chaque projet de loi de finances chaque année, même si pour l'instant, c'est toujours pas passé, on essaye de pousser la tarification incitative sociale, c'est-à-dire la possibilité de moduler en fait cette taxe ou cette redevance d'enlèvement des ordures ménagères incitatives en fonction du nombre de personnes dans le foyer et du niveau de revenu des foyers. Parce qu'en l'état, c'est pas possible, de raisons juridiques, de principes d'égalité devant l'impôt, etc. Mais par exemple, c'est quelque chose qui existe pour la tarification sur l'eau, d'avoir une progressivité en fonction du niveau de revenu, etc. Et donc, nous, on aimerait que ce soit possible aussi pour les déchets, donc qu'on puisse faire payer les gens en fonction du nombre de déchets qu'ils produisent, mais avec une variable progressive en fonction de comment est composé le foyer et du niveau de revenu, ce qui permettrait d'atténuer un petit peu cette difficulté-là et de profiter du potentiel que ça peut avoir comme mesure pour faire réduire les déchets sur un territoire.
Eh bien, merci à vous, merci à nos deux invités d'avoir, de s'être prêtés à cet échange très intéressant. On a vraiment apprécié le moment passé entre nous, entre vous. On conseille à tous nos auditeurs d'aller faire un tour sur le site de Radio Calade, dans la page de l'émission, où nous mettrons tous les liens des études ou bien des associations ou de l'agglo de Villefranche, du site Réval, pour retrouver toute l'information et plus de détails. On mettra aussi le lien vers l'ADEME, qui est l'agence de la transition écologique, qui nous donne des statistiques en France et le suivi de la réglementation. Et pour approfondir le sujet, vous pouvez continuer à nous interroger sur les réseaux sociaux, dans notre page Facebook et sur notre compte Instagram.
Suis-moi au rap qui a l'air d'un vrai centre de tri. Y'a plein d'échecs qui ne devraient pas être ici.
Dans mon bas, sont fâchés. Toutes ces belles matières recyclables souillées. Les employés du centre de tri finissent toutes mouillées. Oh my god. Fais ça comme faut, comme si le monde te regarde. Mets du respect dans ton bac. Check ce qu'il y a dans ton bac. T'as perdu ton bac. C'est qui est ton bac? Moi j'ai ton bac. Mets du respect dans ton bac. Dans ton bac. Fais attention qu'elle se met. Tu pensais que c'était ça que c'était, mais ça allait aux poubelles. Une fois par semaine, les gars de la ville ont ton bac. À la base, c'était ma nature qui inventait le recyclage. Ça l'arrive de partout, ça l'arrive de plein de places. Mélangez donc pas tout. Moi, je trouve que c'est dégueulasse. Wesh! Changer des mauvaises habitudes, on dit pas, je suis pas capable.
Metal vert plastique, carton papier daté. Metal vert plastique, carton papier daté.
Metal vert plastique, carton papier daté. Metal vert plastique, carton papier daté.
Sont fâchés. Toutes ces belles matières recyclables souillées. Les employés du centre de tri finissent toutes mouillées. Oh my god. Fais ça comme faut, comme si le monde te regarde. Mets du respect dans ton bac.
Check ce qu'il y a dans ton bac.
T'as perdu ton bac. C'est qui est ton bac? Moi j'ai ton bac.
C'est cyclable. C'est cyclable plusieurs fois. Mais c'est pas ce que ça veut dire être recyclable. Oh là là. Pointe du doigt, pierre fonçable. Fais ton smat, fais ton frais. Pense trois fois avant de pitcher dans ton bac des jouets.
Oh oh.
Désuet.
Suis-moi au rap qui a l'air d'un vrai centre de tri. Y'a plein d'échecs qui ne devraient pas être ici. Pleu et flétrie.
C'est non.
Pneus de camion.
C'est non.
Matériaux de camp.
Construction. C'est non.
Les couches qu'elles soient pleines.
Ou non.
C'est non.
Ça pue.
Sont fâchés. Toutes ces belles matières recyclables souillées. Les employés du centre de tri finissent toutes mouillées. Oh my god. Fais ça comme faut, comme si le monde te regarde.
Oh oh.
Mets du respect dans ton bac.
Check ce qu'il y a dans ton bac.
T'as perdu ton bac. C'est qui est ton bac?
Moi j'ai ton bac.
Mets du respect dans ton bac.
Ça pue.
Metal vert plastique, carton papier daté. Metal vert plastique, carton papier daté. Metal vert plastique, carton papier daté.
Et vous l'aurez entendu, c'était un groupe québécois, À la claire ensemble, qui a chanté « Mets du respect dans ton bac ». Un grand merci encore à nos deux intervenants de la première partie, Alice Elfassi, de responsable juridique de Zero Waste France, et M. Perrin, maire de Vaud et vice-président pour les déchets et la gestion des déchets. Un grand merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation et d'avoir été là à nos côtés. Et maintenant, il y a aussi à mes côtés Bernard qui est là, avec qui nous allons continuer dans le vert et pas dans le greenwashing, avec sa chronique « Calade verte ».
Que ce fut difficile d'écrire cette chronique. Il y a quelques jours, je fus pris de panique. L'actualité est dense et il fallait choisir entre ce qui nous blesse et ce qui nous fait rire, entre ce que l'on kiffe et ce qui nous dégoûte, entre ce qu'on espère et ce que l'on redoute. Faut-il parler d'ici, évoquer d'autres lieux ? Faut-il choisir l'humour ou bien rester sérieux ? Bon, vous aurez tout ça de façon très diverse. Ce sera le tout de mon cru à défaut de l'inverse. Actualité nationale. Alors, pour commencer, une bonne nouvelle. Que dis-je ? Une très bonne, véritable arc-en-ciel dans nos cieux tourmentés. Une belle récréation. Elle nous vient en direct de la Cour de cassation qui, au bonheur, relaxe, et cette fois pour de bon, 8 décrocheurs et cheuses des portraits de Macron. Yes. Ces 8-là qui nous viennent en direct de Gironde avec les autres d'avant, ça fait beaucoup de monde. C'est la 10e relaxe en 50 procès. Il en reste encore 11. De quoi, sans se lasser, défendre devant la Cour avec rage et passion tout ce qui touche à la liberté d'expression. Décrocher un portrait n'est donc pas délictueux. Ça, c'est encourageant et ça ouvre les yeux, mais aussi bien des portes. Ce serait idéal de faire la même chose avec l'original. Actualité nationale encore. Habitants de Calade, habitants de la France, si vous êtes dotés d'un peu de clairvoyance pour avoir pris conscience du drame écologique qui se noue, implacable, toujours plus dramatique. Et puis, si de surcroît, vous agissez aussi, alertant, réveillant tous ceux qui restent assis, dénonçant les abus de ceux qui outrepassent, qui nous font faire fausse route, qui nous mènent dans l'impasse, alors oui, sans nul doute, aux yeux des gouvernants, en tout cas ceux des nôtres, vous devenez gênants. Vous êtes devenus des éco-terroristes. Qu'importe si l'amalgame vous paraît trop simpliste. Tous les moyens sont bons quand c'est pour vous faire taire. Injures, coups, lacrymos, garde à vue arbitraire, tout ça peut se terminer devant un tribunal ou dans le pire des cas, dans une chambre d'hôpital. L'actualité récente, celle des méga-bassines, montre que cette question est loin d'être anodine. Rarement vit-on en France un tel déchaînement des forces dites de l'ordre sur des manifestants. Et puis ce n'est pas tout, car un moyen ultime, peut-être le plus brutal, le plus illégitime, est celui de dissoudre les soulèvements de la terre. C'est plus de la République, c'est du totalitaire. L'autocrate d'en haut distille son venin, il se croit un géant, il n'a qu'un dharma nain. Actualité locale. Notre cher député, discret sur les retraites, a repris, semble-t-il, un peu de poil de la bête. Le voici devenu un vrai lanceur d'alerte. Ça, c'est une surprise, une grande découverte. Serait-il devenu rebelle ou insoumis ? Nous l'aurait-on changé en marsupilami, pourchassant sans relâche tous ces méga-pollueurs qui sévissent partout pour notre plus grand malheur ? Ah non, vous faites fausse route, sa cause est bien plus pure. Elle va, c'est sûr, marquer toute sa législature. Les petites églises s'effondrent partout en France, clame-t-il haut et fort, rajoutant « y a urgence ». Nous connaissions déjà l'urgence climatique et l'urgence sociale, mais pas l'ecclésiastique. Il est vrai qu'en Calade, où fleure bon l'eau bénite, ce genre de sortie n'est pas vraiment fortuite. Flatter l'électorat, c'est assurer l'avenir. Pour être réélu, tout est bon pour séduire. C'est l'esprit de clocher, le vrai, le véritable. Ça coûte pas très cher et c'est très profitable. Alors, un petit conseil à notre néophyte. Une recommandation amicale et gratuite. Si vous souhaitez défendre des causes nationales et même au-delà, en beaucoup plus globales, venez vite nous rejoindre à Alternativa. Nous vous accueillerons pour nos futurs combats. Ce sont des causes justes, des luttes légitimes. Si ce ne sont nos votes, vous gagnerez notre estime. Actualité toujours. Mais c'est presque fini, il va falloir s'arrêter. Si j'avais eu le temps, j'aurais pu vous parler du projet d'autoroute là-bas du côté de Castres, une gabegie monstrueuse, un véritable désastre. Du fléau des Antilles qui tue, qui empoisonne, vous avez deviné, je parle du chlordécone. Des polluants éternels, épée de Damoclès, une menace permanente et de la pire espèce. Des urgences qui ferment, scandale sanitaire, politique désastreuse aux effets délétères. Heureusement, il y a aussi ce qui nous rassure, un espoir grandissant dans notre démocrature. Des marées militantes se forment et s'organisent, spontanées, pacifiques, ardemment insoumises, citoyens réveillés, peuple enfin existant, se rebellant en masse dans le macronistan. Le mot de la fin. Avant de se quitter, un petit message express. La dernière fois, je vous avais fait une promesse, celle de faire la prochaine émission. Eh bien, vous avez vu, j'ai rempli ma mission. Voilà, la calade verte, c'est pas de la politique. Les promesses, on les tient, loin de toute rhétorique.
Merci Bernard, on se régale toujours avec cette chronique. Quelques minutes nous restent pour vous donner nos prochains rendez-vous, alors je vais les sélectionner pour aller plus vite. Vous allez pouvoir nous retrouver le samedi 27 mai au Forum des associations sur la place des Arts de Villefranche. Nous y serons de 10h à 18h sur un stand. Rejoignez-nous, vous qui avez écouté nos chroniques depuis le début de l'année, voire même plus loin encore, puisque nous en sommes à notre 17e émission. Donc rejoignez-nous sur la Place des Arts le samedi 27 mai pour le Forum des associations de la ville de Villefranche. Et nous serons également présents le 10 juin au bal solidaire organisé par le collectif des soutiens aux migrants à la maison des familles de Bellini à Villefranche. Et on espère, on aura le temps de vous en reparler lors de notre prochaine émission. Prochaine émission qui viendra sur le sujet collectivité locale, puisque nous parlerons du bilan à mi-parcours des élus sur notre territoire, sur les mesures prises ou pas pour le climat, un bilan à mi-parcours que l'on mène actuellement avec le pacte pour la transition. Merci à tous d'avoir participé. Il y avait ce soir aux manettes, on avait Gaëlle et Pierre qui étaient toujours là. Merci, un grand merci à Alice et à Bernard pour avoir préparé l'émission et nous avoir trouvé de chouettes participants comme ça. On se retrouve le mois prochain et d'ici là, vous pouvez réécouter cette émission sur le site de Radio Calade et nous laisser des messages sur les réseaux sociaux. Très bonne semaine à tous.
Qu'est-ce qu'on attend ? On n'a pas de terre de rechange, on n'a plus le temps de faire semblant. Alors on se lance. On laisse plus faire, on n'aura pas de deuxième chance, pas de plan B, pas d'autre terre.
100.9 Calade.